11h passée de 6 minutes sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez La Méridienne. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec l'INSERM, j'ai le grand plaisir de recevoir le docteur Sylvie Chalon. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Sylvie Chalon, vous êtes directrice de recherche INSERM auprès de l'unité Imagerie et Cerveau, iBrain, l'unité 1253. Alors tout d'abord, est-ce que vous aimeriez présenter à nos auditeurs cette unité dont on a déjà parlé, mais il faut toujours bien de redire les choses.
Oui, je peux tout à fait présenter cette unité. Donc, moi, je suis directeur de recherche à l'INSERM depuis un certain nombre d'années. Hein. Je suis plutôt en fin de carrière. Et donc, je travaille dans l'unité iBrain, imagerie et cerveau. Alors, c'est la première structure INSERM qui a émergé à Tours. Ça va vous paraître très ancien pour vous, les jeunes étudiants, là, en 1988. Voilà. En 1988, il y a deux personnes qui sont célèbres dans la recherche biomédicale locale, qui sont Léon de Pourcelot, qui travaillait dans le domaine des ultrasons, et le professeur Gilbert Lelor, qui est un spécialiste de l'autisme. Et tous les deux, ont eu comme projet de fonder donc une structure de recherche qui associe le côté technologie pour la santé, donc avec les ultrasons, au côté psychiatrie, et en l'occurrence l'autisme. Alors c'est un gros travail de monter une structure INSERM parce qu'il faut qu'elle soit labellisée au niveau national, ce qui a été fait donc en 88. Donc ensuite l'histoire s'est poursuivie avec des renouvellements successifs, puisque une structure INSERM, ça a une vie de 4 à 5 ans. Et au bout de ce nombre d'années, il faut monter un dossier pour reconstruire un projet, pour faire le bilan de ce qu'on a effectué, etc. Donc actuellement, l'unité INSERM 1253 est pilotée par le professeur Catherine Belzung hein, depuis janvier 2018. Donc voilà, elle comporte trois équipes. Une équipe qui travaille dans le domaine de l'autisme et la dépression, une équipe qui travaille dans le domaine de la neurogénétique et l'équipe dans laquelle je suis, donc qui est dans le domaine de la technologie pour la santé. Et dans ce cadre-là, donc moi je travaille sur l'imagerie moléculaire du cerveau en utilisant en particulier des méthodes de médecine nucléaire, donc qui utilisent des isotopes radioactifs. Et ce, dans des modèles animaux de maladies neurologiques et psychiatriques.
Merci. Alors, peut-être pour nos auditeurs, aimeriez-vous, Sylvie Chalon, nous expliquer comment on devient directeur, et pas directrice, pardon, de recherche à l'INSERM?
Oui, c'est vrai que je dis directeur. Alors, bon, ça dépend des sensibilités. Certaines femmes préfèrent dire directrice, professeur, auteur, pour moi, c'est l'intitulé du poste, c'est directeur de recherche. Voilà.
Je suis un journaliste, donc je ne vous en veux pas du tout, au contraire.
Voilà. On y arrive au bout d'un certain nombre d'années d'études. Hein. En fait, j'ai obtenu mon poste de chargée de recherche, puisque dans le corps des chercheurs publics, il y a la catégorie des chargés de recherche, puis des directeurs de recherche. Environ à l'âge de 30 ans, c'est toujours le cas actuellement hein, pour les jeunes recrutés, 30, 35 ans même. Hein. Donc on est recruté par concours national lorsqu'on a une thèse. Une thèse de science. Bon, actuellement, donc, une thèse, ça se prépare en 8 années après le baccalauréat, hein, puisqu'il y a la licence, 3 ans, le master, 2 ans, puis la thèse, 3 ans. Donc, une fois qu'on a additionné tout ça, Alors, en général, donc, ça permet de candidater à un poste de chercheur. Alors, moi, je travaille à l'INSERM, l'Institut national de la recherche et de la santé médicale. Les conditions, comment dire, les conditions de recrutement sont les mêmes pour l'INRAE, hein, dans le domaine agronomique, et pour le CNRS, donc, qui est un domaine plus large. L'INSERM travaille dans le domaine du biomédical, c'est-à-dire hein, la biologie appliquée à la médecine. Donc, pour en revenir à mon histoire, il faut avoir une thèse et il faut constituer un dossier de recherche. Et pour cela, maintenant, il est indispensable pour les jeunes hein, de faire une ou plusieurs années d'études postdoctorales après la thèse. Dans un laboratoire de préférence différent de celui dans lequel on a préparé une thèse, et de préférence à l'étranger. Alors avant, c'était de préférence aux États-Unis, maintenant c'est plus le cas, hein. On peut parfaitement faire des postdocs d'excellente qualité en Europe ou ailleurs, voilà, pour se constituer un dossier. Et ensuite, on passe le concours à titre d'information, là, le concours de l'INSERM, là, cette année, va recruter une soixantaine de chercheurs, donc dans tous les domaines. Donc on passe ce concours pour être chargé de recherche et au bout d'un certain nombre d'années d'expérience dans ce métier, on peut passer un concours pour atteindre le grade au-dessus qui est celui de directeur de recherche.
Voilà, donc c'est un engagement sur le long cours. Ça veut dire aux étudiants qui nous écoutent, voilà, si on a envie de partir dans un domaine, en tout cas dans la recherche, il faut déjà se projeter sur un doctorat, plus un postdoctorat, plus.
Oui, c'est un peu le parcours du combattant, hein, et c'est difficile. C'est difficile pour les jeunes. Alors déjà, à l'époque où j'étais recrutée, donc il y a un grand nombre d'années, c'était difficile. Et disons que ça s'est pas arrangé, quoi. Il faut vraiment, il faut s'accrocher. Mais bon, quand on souhaite vraiment y arriver, on peut y arriver, hein. Puisque ça impose des études longues, il faut pouvoir en assurer le financement. Alors, maintenant, il est imposé d'avoir une bourse pour préparer un doctorat, hein, c'est-à-dire à l'issue du master, lorsqu'on prépare un doctorat donc, qui va durer 3 ans, dans le domaine biomédical, hein, dans d'autres domaines, ça peut durer plus longtemps. Eh bien, on candidate, on postule pour obtenir une bourse financée par le ministère, par la région, par voilà, différents organismes, de manière à être payé, bien sûr, un minimum pendant la préparation de son doctorat. Et ensuite, il faut trouver les moyens de partir donc en postdoc, de se constituer un dossier, de se constituer un réseau de recherche qui va permettre de postuler. Alors, de postuler soit à un poste de chercheur, ce qui est mon cas, soit un poste d'enseignant-chercheur. Hein. Bon, bah, évidemment, comme vous êtes étudiant à l'université, vous connaissez tous ces enseignants-chercheurs qui suivent globalement le même parcours. Hein. Ce qui est différent, c'est que eux consacrent une partie de leur temps, 50%, dans le domaine dans lequel je suis, de leur temps à la recherche et les autres 50% à l'enseignement, alors que les chercheurs consacrent la totalité de leur temps de travail à la recherche. Ce qui présente des avantages et des inconvénients.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire, on va commencer par les avantages pour les chercheurs, bah, c'est d'avoir plus de temps pour se consacrer à son travail de recherche. Un inconvénient, c'est que bon, la recherche, c'est quelque chose qui est difficile, qui marche rarement du premier coup. Il y a pas mal d'échecs, ça fait partie du jeu, je dirais. Je considère que quand on a à côté un travail d'enseignant, et ben bon, ça permet entre guillemets, de souffler un petit peu, c'est-à-dire de faire autre chose dans lequel, ben, on réussit globalement, puisqu'on enseigne aux étudiants ce qu'on connaît. Voilà, donc on n'est pas confronté à l'échec en général. Alors quand on est uniquement chercheur, on est confronté à beaucoup d'échecs, on est confronté aussi à beaucoup de plaisirs. Quand quelque chose fonctionne, quand on a émis une hypothèse, qu'on a élaboré une hypothèse, qu'on a réalisé un travail de recherche et qu'on a des résultats qui permettent d'apporter une petite pierre aux connaissances générales. Il faut être modeste hein, quand on fait ce métier-là. Hein. Le prix Nobel, c'est quand même réservé à très peu de gens. On essaye de faire progresser les connaissances qui vont permettre à terme, dans le domaine dans lequel je suis, bah, d'améliorer la santé humaine. Hein. C'est ça le but. Et concernant mon domaine, dans le domaine des maladies neurologiques et des maladies psychiatriques.
Alors, améliorer la santé humaine, Sylvie Chalon, est-ce que c'était ça votre motivation quand vous avez choisi ce parcours, cette carrière?
Oui, c'était approfondir les connaissances. C'est-à-dire que au cours de mes études, c'était pas le premier objectif. Disons que j'ai découvert au cours de mes études l'attrait de travailler sur le cerveau, parce que pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un organe qui est vraiment extraordinaire à explorer. J'ai découvert ça en fait au cours de la maîtrise, enfin assez tardivement, hein, parce que bah, comme beaucoup, beaucoup de jeunes qui démarrent des études, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. J'aimais bien la biologie, j'aimais bien la médecine, mais alors je trouvais que faire des études de médecine, c'était beaucoup trop long. Bon, résultat des courses, voilà. Et puis, j'ai découvert le fonctionnement du cerveau, à quel point voilà, ça m'a passionnée, et voilà pourquoi je me suis orientée par là. Je me suis parfois dit que, bon, que ça a été difficile d'être recruté. On a un vrai job, je vous dis, pas avant une trentaine d'années. Alors, à cet âge-là, évidemment. On peut avoir envie aussi d'avoir une vie de couple, une vie d'avoir des enfants éventuellement. Enfin, et alors quand on est une femme, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en même temps, voilà, on fait les enfants. Voilà, pour ce qui me concerne, lorsque j'ai été recrutée comme chercheur, j'avais mes deux fils. Voilà, le premier que j'ai eu à 24 ans et le suivant 3 ans après. Donc voilà, ça impose d'avoir des conditions matérielles, familiales qui permettent de faire ce genre d'études. Hein. Moi, je dois beaucoup à mon partenaire, mon compagnon, qui voilà, qui m'a accompagnée dans toute cette aventure.
Et alors, ces difficultés, ça dépend du point de vue selon lequel on regarde les choses, mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui pour les jeunes femmes qui voudraient se lancer dans la recherche? Est-ce que vous avez l'impression que ça peut en tout cas les désavantager, entre guillemets, pour être retenues sur un poste de chercheur?
Pour être retenue sur un poste de chercheur, non, non, si elles ont le dossier scientifique qui convient. Ça peut être plus difficile pour elles-mêmes de se partager entre le côté professionnel qui impose de passer beaucoup, beaucoup de temps, et puis si elles en ont le souhait, voilà, le projet plus personnel, de couple ou de famille, enfin bon, c'est plus compliqué. Et j'ai toujours beaucoup, beaucoup encouragé les étudiantes que j'avais en thèse à ne pas, voilà, ne pas faire passer, à faire passer leur. Comment, leur projet professionnel, ne pas le négliger à cause de problèmes
Ouais,
familiaux.
de dire qu'on peut
On peut.
légitimement faire les deux.
Oui, tout à fait. On peut faire les deux. C'est super. C'est aussi, je trouve, un bon exemple par rapport aux enfants, par exemple, leur montrer que voilà, leur maman peut être passionnée par le métier qu'elle fait. Bon, même si c'est parfois un petit peu compliqué sur le plan de l'organisation, quoi.
Que ça, vous sentez que vous êtes regardé enfin, comme un modèle pour certaines doctorantes ou étudiantes quand vous leur dites mais on peut faire les deux?
Oh, oui, étant donné mon âge, oui, peut-être oui que j'ai pu représenter, que je peux représenter parfois un modèle pour.
Moi, c'est positif, c'est bien. Avant de se concentrer sur les maladies neurodégénératives et l'imagerie moléculaire du cerveau, Sylvie Chalon, je vous propose une pause musicale dans cette émission. Et alors, nous allons écouter un morceau de l'album Noir Lac. Voilà, c'est une musique plutôt jazz. On se retrouve tout de suite après cette pause musicale dans La Méridienne. Vous êtes toujours sur Radio Campus Tours et quelle bonne idée!
Thank you.
Donc nous venons d'écouter Noir Lac, donc en effet, chers auditeurs, je dois l'avouer, je vous ai menti, ce n'était pas du tout du jazz, et mon invité, le docteur Sylvie Chalon, me l'a fait observer.
Gentiment.
Voilà, gentiment. Donc merci à mon invité, et je vous promets que le morceau de jazz arrivera plus tard dans cette émission, car si, il y en aura un. Alors, pour en revenir au sujet de cette émission, Sylvie Chalon, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM, à l'unité iBrain. Nous parlions de maladies neurodégénératives. Alors, est-ce que vous voudriez expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste, ces maladies ?
Alors, je vais essayer d'expliquer de manière la plus simple, la plus claire possible. Alors, donc, de manière plus générale, hein, il s'agit du domaine des maladies neurologiques, c'est-à-dire les maladies qui touchent le système nerveux central. Et parmi ces maladies neurologiques, eh bien, on peut distinguer les maladies neurodégénératives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maladie neurodégénérative ? Le point commun de ces maladies, c'est qu'on assiste à une mort prématurée et progressive des cellules du système nerveux central qu'on appelle les neurones. Voilà. Donc, au cours du vieillissement, hein, on sait que les neurones dégénèrent. Dans le cadre des maladies neurodégénératives, ça se fait de manière trop prématurée par rapport à l'âge de la personne et de manière progressive. Alors, qu'est-ce qu'on a comme maladie neurodégénérative ? La plus fréquente, vous savez peut-être, c'est la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer. Donc, ce sont aussi des maladies qui, en général, sont liées à l'âge, hein, qui arrivent lorsque les personnes atteignent un certain âge. Donc, c'est pourquoi elles sont de plus en plus présentes dans la population générale, étant donné le vieillissement de la population, hein, qui est plutôt une bonne chose, hein, l'augmentation de l'espérance de vie. Alors, donc, la plus fréquente maladie d'Alzheimer, qui touche à peu près 900 000 personnes en France, donc c'est pas négligeable, c'est une maladie qui a été découverte par Alois Alzheimer dans les années 1900 et quelques. Hein. Alors, c'est une maladie qui touche donc beaucoup de personnes, hein, 3 à 4% des gens âgés de plus de 65 ans et 15% des personnes de plus de 80 ans. Donc, enfin, vous en avez sans doute autour de vous. Cette maladie touche un peu plus, d'un point de vue statistique, les femmes que les hommes, à peu près 60, dans un rapport de 60-40, 60 femmes, 40 hommes. Et si on considère aussi les aidants de ces personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, parce que c'est vraiment un problème qui touche beaucoup de monde, on arrive à 2 à 3 millions de personnes en France. Donc, une maladie très, très handicapante. La seconde maladie la plus fréquente en termes de maladie neurodégénérative, c'est la maladie de Parkinson, qui touche à peu près 160 000 personnes en France. Hein, c'est la deuxième la plus fréquente, dont le diagnostic est fait en général autour de 55-60 ans. Donc, vous voyez que ce n'est pas si vieux que ça. Qui touche, alors là, pour le coup, dans le rapport inverse, plus d'hommes que de femmes, à peu près 60 hommes pour 40 femmes. Et puis, il y a d'autres maladies neurodégénératives qui sont moins fréquentes, mais pour autant difficiles, telles que la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, enfin bon, voilà. Quel est le problème de ces maladies neurodégénératives, d'une manière générale ? C'est que le diagnostic est fait en général de manière tardive, c'est-à-dire une fois que beaucoup de neurones, beaucoup de cellules nerveuses ont déjà dégénéré. C'est-à-dire que la maladie se met en place pendant des années et des années avant d'avoir des signes cliniques. Donc, en général, les gens sont alertés par des signes cliniques, des troubles cognitifs, des pertes de mémoire ou des tremblements ou autres. C'est à ce moment-là qu'ils consultent. Et en réalité, lorsque le diagnostic est posé, eh bien, la maladie a évolué depuis longtemps, d'où la difficulté de la traiter. Alors, les traitements, c'est aussi un problème majeur. Dans le cadre de la maladie de Parkinson, on a la chance d'avoir des traitements, de disposer de traitements depuis de nombreuses années qui empêchent certains signes cliniques, par exemple qui empêchent les tremblements, qui aident à marcher plus facilement, des choses comme ça. Mais qui n'empêchent pas la maladie de progresser, les neurones de dégénérer. Et dans le cas de la maladie d'Alzheimer, alors là, c'est plus compliqué parce qu'on a actuellement vraiment peu, voire pas de traitements qui sont efficaces sur l'amélioration des fonctions cognitives des patients atteints de cette maladie. Donc il y a un gros travail de recherche hein, à faire pour améliorer tout ça. Et alors, tout ça, donc les maladies neurodégénératives qui font partie des maladies neurologiques, on a à côté de ces maladies neurodégénératives, et ce qu'il ne faut pas négliger, des maladies psychiatriques, maladies psychiatriques du système nerveux central. On peut citer la dépression hein, qui touche énormément de personnes. 20% de la population au cours de sa vie peut être confrontée à un épisode dépressif. La schizophrénie qui touche autour de 600 000 personnes, les troubles bipolaires, les addictions. Puis dans le domaine chez les enfants, l'autisme, la déficience intellectuelle. Enfin, globalement, les maladies neurologiques sont un véritable problème de santé publique de par la quantité de personnes qu'elles touchent et de par le handicap qu'elles induisent.
Alors, juste une question pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire qu'une maladie peut être, comment dire, et neurologique et psychiatrique?
Ah, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante parce que c'est difficile de classer les maladies spécifiquement dans l'une ou l'autre des catégories. Je vais prendre l'exemple de la maladie de Parkinson que je connais bien. Pendant longtemps, on s'est surtout intéressé parce que c'était ce qu'il y avait de plus évident. Aux symptômes moteurs de la maladie, on a tendance à caricaturer. Quand on dit Parkinson, on pense à quelqu'un qui va trembler, qui a des difficultés à marcher. Mais en réalité, il existe aussi beaucoup de symptômes non moteurs, et notamment des problèmes justement de dépression, il peut y avoir des problèmes d'addiction, donc des problèmes en fait qui sont reliés à ce qu'on peut mettre dans la catégorie des troubles psychiatriques. Enfin, c'est très compliqué, c'est très multifactoriel, c'est très complexe. Et justement, ça me permet de poursuivre peut-être sur quelque chose qu'on essaye d'améliorer en faisant de la recherche. C'est pour une pathologie donnée, d'essayer de déterminer des sous-populations de malades. C'est-à-dire que la maladie de Parkinson, par exemple, c'est quelque chose d'hétérogène. Et si on arrivait à mieux cerner les problèmes de chacune des personnes, on arriverait à mieux les traiter. Et c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, la médecine stratifiée. Et on essaye de développer des méthodes, et notamment les méthodes d'imagerie, pour mieux identifier les troubles de chaque personne et donc essayer de mieux les traiter.
Et alors, puisqu'on parle d'imagerie, donc il y a plusieurs techniques qui existent en imagerie, c'est lesquelles?
Alors, il y a plusieurs techniques qui existent en imagerie. En effet, la caractéristique de l'imagerie, c'est d'être une méthode non traumatique, non invasive, puisque on explore un cerveau chez la personne vivante, bien sûr.
On aimerait bien qu'elle le reste, tant qu'à faire.
Voilà, de préférence. Alors, on peut citer le scanner X, hein, qui est une méthode déjà assez ancienne, qui donne certaines informations. On peut citer l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. On peut citer les méthodes d'imagerie par ultrasons, par exemple, qui sont beaucoup utilisées, par exemple, au cours de la grossesse, pour aller explorer les fœtus, et puis les méthodes qui utilisent des éléments radioactifs, qui sont les méthodes de médecine nucléaire, c'est-à-dire qui utilisent ce qu'on appelle des traceurs. Alors, comme son nom l'indique, un traceur, c'est quelque chose qui va permettre d'explorer une cible. On parle de cible bien précise, et dans le cadre de l'imagerie, dans le domaine de la médecine nucléaire, c'est cette radioactivité qu'on détecte une fois qu'elle est dans le corps de la personne, dans le cerveau de la personne, qui va permettre de localiser et de quantifier un récepteur, des neurones, etc.
Donc on a plusieurs outils à disposition, disons, mais alors on utilise lequel, pour quoi faire ?
Alors, lequel, pourquoi faire, tout dépend de ce qu'on cherche. En fait, les méthodes varient. Alors, si on veut être de manière plus générale, si on soupçonne une fracture, on va faire passer à la personne une radiographie. Si on soupçonne une tumeur, on peut faire passer un scanner, une IRM, une scintigraphie. Pour les méthodes d'imagerie par médecine nucléaire, on parle de scintigraphie. On a plusieurs outils à notre disposition.
Et alors, pour ce qui est du cerveau, comment on utilise ces différentes techniques pour aller voir dans la boîte crânienne?
Alors, pour ce qui est du cerveau, les méthodes les plus performantes pour explorer le cerveau et qui sont complémentaires, hein, c'est l'imagerie par résonance magnétique qui permet d'avoir une idée assez précise de l'anatomie, hein, des différentes zones cérébrales. On a des très belles images. Le cerveau, c'est un organe qui est extrêmement compliqué, avec plein de régions différentes, dont l'anatomie est bien, bien caractéristique. On a, sans employer trop de mots compliqués, le cortex, l'hippocampe, centre de la mémoire, le striatum, le cervelet, enfin que l'on peut bien identifier sur le plan anatomique. Et puis avec d'autres méthodes, bon, l'IRM fonctionnelle ou l'imagerie nucléaire en scintigraphique, là on va plutôt explorer le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire c'est moins le côté anatomique qui est révélé, mais c'est la manière dont ça fonctionne.
Alors comment travaille votre unité pour développer ces techniques?
Alors c'est compliqué. Enfin, pour développer des techniques d'imagerie qui vont permettre d'explorer spécifiquement. Alors il y a d'abord la question clinique. On se dit la maladie de Parkinson, par exemple, on sait qu'elle est liée à une dégénérescence de tels neurones, les neurones dopaminergiques. Bon. Comment on va pouvoir les explorer? Eh bien, avec tel traceur, on va pouvoir aller regarder, quantifier ces neurones dopaminergiques. Donc, une fois que la question est posée, on choisit ce qu'on appelle la cible moléculaire, c'est ce que je viens de dire. Donc on se dit que c'est telle structure qu'il faut explorer. Et on va devoir fabriquer, mettre en place l'outil qui va permettre d'explorer cette cible. Donc on va partir d'un composé d'une molécule chimique dont on pense qu'elle va se lier à la cible qu'on veut explorer. Et on va trouver le moyen d'y accrocher un atome radioactif, de manière à pouvoir le détecter une fois qu'il sera dans l'organisme. Et puis, donc, il faut que cet outil ait une bonne affinité, c'est-à-dire se lie de manière importante à la cible, une bonne spécificité, c'est-à-dire qu'il se lie à cette cible et pas à une autre cible. Qui aille dans le cerveau, et vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle la barrière hématoencéphalique qui protège notre cerveau. Ça protège tellement bien que quand on veut pénétrer à l'intérieur du cerveau, c'est pas si simple, il faut trouver des composés qui arrivent à franchir cette barrière. Donc, avant bien sûr de l'utiliser chez l'humain, on procède donc à toute une batterie d'évaluation, de caractérisation de cette molécule, y compris chez l'animal. On a besoin d'expérimentation animale lorsqu'on fait ce type de démarche pour en arriver au bout du compte, c'est-à-dire au bout de plusieurs années, éventuellement à un traceur que l'on va pouvoir utiliser chez l'humain. Alors qu'on va pouvoir utiliser chez l'humain soit à des fins de recherche clinique, c'est-à-dire on est toujours dans le domaine de la recherche, on pose l'hypothèse, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce que dans la maladie de Parkinson, les transporteurs de la dopamine sont affectés? On se pose une question, on va faire un travail de recherche clinique qui va permettre de répondre à l'hypothèse. Et seulement dans l'étape d'après, on peut éventuellement arriver à utiliser ce type de méthode en routine. C'est-à-dire le médecin va prescrire tel examen pour l'aider à poser un diagnostic ou à suivre un traitement. Je ne sais pas si c'est clair.
Alors, en tout cas, je rebondis sur l'expérimentation animale. C'est quand même un sujet qui peut être polémique. Alors, peut-être que vous aimeriez préciser des choses là-dessus.
Oui, en effet, j'aimerais préciser quelque chose là-dessus parce que l'expérimentation animale, c'est quelque chose qui est indispensable, hein, dans le domaine de la recherche biomédicale. D'ailleurs, avec la crise sanitaire que nous traversons, vous avez peut-être vu qu'il en a été question aussi, parce que on peut pas progresser dans le domaine de la santé si on ne passe pas par l'expérimentation animale. Hein, c'est le cas pour toutes les pathologies. Et il faut savoir aussi que cette expérimentation animale, on ne l'utilise que lorsque on n'a pas d'autres méthodes qui vont permettre de répondre à une question. Hein. C'est vraiment, c'est extrêmement réglementé. Parfois, on ne peut répondre à certaines questions que lorsqu'on travaille sur un organisme entier, un animal entier. Donc, on est obligé d'en passer par là. C'est très réglementé. Il y a des règles européennes, des règles françaises que l'on est obligé de suivre. Et c'est très bien. Tous les protocoles réalisés chez l'animal sont validés par un comité d'éthique, hein, qui accepte ou pas. Les gens sont formés à l'expérimentation animale. On utilise, alors, dans 90% des cas, les animaux utilisés sont des rongeurs, des rats ou des souris. Ensuite viennent les poissons. On travaille de plus en plus dans des modèles animaux chez les poissons. Et puis ensuite, c'est les lapins, hein, j'ai trouvé ces chiffres-là. Les primates, on travaille très très peu sur le primate non humain, c'est-à-dire les singes. Moins de 0,5% de la recherche chez l'animal est réalisée chez le primate. Et puis on peut travailler éventuellement sur d'autres espèces, des oiseaux, des hamsters, etc. Mais il faut savoir que tout ça, c'est extrêmement réglementé, que le bien-être animal a une place prépondérante dans la recherche. Et c'est vraiment quelque chose d'important à faire passer parce que toutes les associations, etc., qui sont contre l'expérimentation animale ont de très bonnes... ont des méthodes de choc, hein, je dirais. Il suffit de montrer une image un petit peu choquante, un petit peu sanglante pour que les gens soient choqués. Et les chercheurs ont encore du mal, je trouve, à bien expliquer ce qu'est l'expérimentation animale. Il ne faut pas la cacher, on en a besoin, il faut l'expliquer, et voilà.
Eh bien, merci pour ces explications, donc. Il me semble que dans votre unité, vous travaillez, entre autres, sur les ultrasons. Donc, est-ce que vous aimeriez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Alors, dans l'unité, en effet, l'un des groupes de recherche est très connu dans le domaine des ultrasons. C'est une méthode d'exploration qui se développe. Je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup parce que ce n'est pas mon domaine. C'est un domaine qui est tout à fait complémentaire à celui que j'utilise. Voilà.
Qui est
l'imagerie moléculaire.
Voilà.
L'imagerie moléculaire scintigraphique.
Alors, quel est sur quoi vous allez aller travailler aujourd'hui après ce passage à la radio? Comment vous allez...
Après ce passage à la radio? Alors, oui, ça aussi, c'est quelque chose que je peux dire. Les gens comme moi passons énormément de temps à rédiger des projets de recherche pour obtenir des financements pour pouvoir travailler. Voilà. Ça, c'est l'un des problèmes, hein. Le financement de la recherche, c'est quelque chose qui est compliqué. Moi, en tant que chercheur INSERM, je suis fonctionnaire de la recherche, c'est-à-dire que j'ai mon salaire tous les mois, à condition, bien sûr, régulièrement, l'INSERM me demande de réaliser un rapport d'activité, donc bon, vérifie que je travaille correctement, on peut dire ça comme ça. Mais bon, en tout cas, j'ai le salaire, mais je n'ai pas, ou j'ai très peu de financements qui me permettent de faire la recherche. Et la recherche, ça coûte cher. Les réactifs de laboratoire, le matériel de leur laboratoire, les animaux, les isotopes radioactifs, enfin, tout ça, c'est très très cher. Et on rédige, enfin, on construit des projets de recherche avec des hypothèses, la prévision du coût, etc., sur plusieurs années, pour essayer de décrocher un financement qui vient du ministère, qui peut venir de certaines associations. Il faut savoir que dans le domaine dans lequel je suis, des associations de patients, par exemple France Alzheimer, France Parkinson, la Fondation pour la recherche médicale, la Fondation de France, enfin un certain nombre d'associations comme ça financent les recherches. Mais il y a beaucoup, beaucoup de concurrence et les chercheurs passent vraiment beaucoup de temps à chercher de l'argent pour financer leurs travaux de recherche.
Que ça peut sembler antinomique, en tout cas, l'idée de concurrence dans la recherche. Si l'idée, c'est de travailler à un mieux-être, à améliorer la santé humaine, ça peut sembler curieux, cette idée de concurrence.
Oui, vous avez entièrement raison. Il y a à la fois de la concurrence et de la synergie, parce que, par ailleurs, tous les résultats de nos recherches sont publiés dans des revues scientifiques spécialisées, ou alors on les partage au cours de meetings, de congrès. Enfin bon, c'est pas le cas depuis la pandémie, mais on rencontre les autres chercheurs au niveau international pour partager les résultats qu'on a pu obtenir. Mais il y a aussi énormément de concurrence. Alors bon, ça a des côtés positifs parce qu'il faut aussi de l'émulation. On a envie un petit peu d'arriver le premier. Et puis aussi, il y a de la concurrence parce qu'il y a une concurrence pour obtenir les financements, parce qu'à mon sens, il n'y a pas suffisamment de financement, ce qui fait qu'il y a des pans de la recherche qui sont plus ou moins laissés de côté. Et parfois, on s'en mord les doigts un peu plus tard. Hein, on s'en est aperçu aussi par rapport au travail sur les coronavirus. Hein, recherche qui avait eu du mal à être financée. Bon, bah maintenant, c'est la course au vaccin. Voilà, on finance plus facilement, enfin, sont financées plus facilement des recherches qui mènent à ce qu'on appelle la valorisation, c'est-à-dire qui peuvent être associées à des industriels, etc. Parfois au détriment de la recherche plus fondamentale, qui va pas donner des résultats tout de suite, mais qui va être primordial pour approfondir les connaissances et au bout d'un moment arriver à produire des choses valorisables. C'est compliqué.
Est-ce qu'on peut supposer que la crise sanitaire aura un effet bénéfique, supposons-le, espérons-le, en tout cas sur le financement de la recherche en France?
C'est une question difficile. C'est vraiment... comment dire, c'est une question... Bon, là, on dépasse le côté scientifique. C'est une question politique, quoi. Les gouvernements choisissent ou pas de mettre de l'argent sur la recherche ou de mettre de l'argent dans d'autres domaines. Enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques... Je ne sais pas vraiment ce qu'on va pouvoir tirer de positif de la crise sanitaire. Alors évidemment, oui, il y a des projets de recherche qui ont été financés sur ce coronavirus. Alors, est-ce que ça a été financé en plus des autres projets ou est-ce que c'était financé avec une enveloppe qui n'a pas bougé et donc au détriment d'autres domaines de la recherche qui sont aussi très importants comme les maladies, hein, les cancers, les maladies cardiaques, les maladies du cerveau, les maladies neurodégénératives. Est-ce que tout ça, toute cette recherche, est-ce qu'elle ne va pas pâtir de l'argent qui aura été mis pour la recherche sur le virus ou est-ce que l'argent mis pour la recherche sur le virus, c'est en plus, auquel cas c'est super. Je ne peux pas me prononcer là-dessus.
Non, mais alors ça veut dire qu'il y a quelque part, en tout cas peut-être pour les citoyens, entre guillemets, une espèce d'attente de résultat alors, parce qu'on peut penser au projet de vaccin français, justement, qui malheureusement a été arrêté. L'Institut Pasteur a arrêté son travail.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ça pose question. Pour moi, ça pose aussi la question des moyens financiers. Les États-Unis mettent beaucoup de moyens sur la recherche. La France en met moins. Bon, ce sont des questions politiques.
Voilà, c'est un fait. Eh bien, merci beaucoup à vous, Sylvie Chalon, directeur de recherche INSERM, d'être venu dans cette méridienne. Est-ce que vous aimeriez conseiller quelques sites ou références à nos auditeurs où on peut trouver de l'information fiable sur le domaine de la santé et de la recherche ?
Alors, des sites... l'INSERM a un site, le CNRS, l'INRAE, puisque maintenant c'est plus l'INRA, c'est l'INRAE, hein, vous savez sans doute que ça a changé. Si on veut s'informer sur certaines maladies, eh bien, les sites des fondations, hein, Fondation pour la recherche médicale, la Fondation de France, des associations peuvent apporter des informations intéressantes. Voilà.
Bien, merci à vous. Et donc, voici le morceau de jazz promis. Valentin et Théo Secaldi pour terminer cette émission La Méridienne. Donc, le morceau s'appelle Cigognac et il est à retrouver sur l'album Constantine. Merci encore, Sylvie Chalon.
Merci à vous.